Après avoir offert l'hostie, le prêtre va à présent offrir le vin. Il se rend tout d'abord au coin de l'épître, auprès du servant, et verse lui-même dans le calice la matière du sacrifice. À la messe solennelle, c'est le diacre et le sous-diacre qui accomplissent cette fonction pour manifester l'union qui lie le Christ, représenté par le prêtre, avec son Église, représentée par les ministres sacrés. Comme nous l'avions vu la fois précédente, il y a quelque temps, il y a, pour ainsi dire, un double offertoire. Matériellement d'abord, le pain, puis le vin. Spirituellement, comme le dit saint Paul, un sacrifice d'holocauste et un sacrifice pour le péché. L'holocauste étant signifié par l'offrande du pain, le sacrifice pour le péché étant signifié par l'offrande du vin. Car notre Seigneur s'offrit dès son incarnation afin d'être immolé sur l'arbre de la croix comme hostie pour le péché, et son sang fut répandu à cet effet. C'est pour cette raison que l'on offre de manière distincte le pain, figurant son corps innocent et sans tache, un sacrifice d'holocauste, et le vin, figurant son sang répandu pour le salut des hommes, sacrifice pour le péché. Le prêtre verse donc d'abord le vin dans le calice, puis il y rajoute une goutte d'eau. L'oraison qui accompagne cette cérémonie est très ancienne. Elle remonte au premier temps de l'Église. Elle nous fait comprendre quelle est l'importance, la dignité de l'eau employée dans le saint sacrifice. L'Église nous dit « Ô Dieu qui avait formé la nature humaine d'une manière admirable ». À quel propos parle-t-elle ici de la dignité de l'homme ? Pourquoi rappelle-t-elle ici la divinité et l'humanité du Christ ? C'est que le vin et l'eau employés sont ici des figures de l'humanité et de la divinité. Le vin représente Jésus-Christ comme Dieu. L'eau le représente comme homme. La faiblesse de l'eau, comparée à la force du vin, exprime la différence qui existe entre l'humanité et la divinité du Christ. Nous devons aussi nous voir nous-mêmes dans cette eau, puisque l'homme a fourni l'humanité à notre Seigneur par Marie. Si nous nous rappelons la manière dont Dieu a créé l'homme, nous ne sommes pas étonnés d'entendre l'Église dire qu'il a été créé d'une manière admirable. Lorsqu'il s'agit de l'homme, Dieu prononce cette parole « Faisons l'homme à notre image ». Et ce qu'il dit, il l'a fait. Mais si l'homme a été ainsi créé, il a été, après la faute qu'il a fait tomber, relevé d'une manière plus admirable encore. Et c'est ce que l'Église nous dit dans cette oraison. Oui, Dieu l'a relevé plus merveilleusement qu'il ne l'avait créé en épousant par son Fils, la deuxième personne de la Trinité, la nature humaine et réformant ainsi l'homme. L'Église met aussi en relief le mystère de l'incarnation par la pensée de l'eau et du vin réunis dans un même breuvage. Elle rappelle de cette sorte l'union de l'humanité et de la divinité de notre Seigneur. Et elle demande à Dieu que nous participions à la divinité du Seigneur. Cette déification, commencée sur la terre par la grâce sanctifiante, s'achèvera au ciel dans la gloire. Dans le paradis terrestre, le diable avait dit à Ève que si elle et Adam voulaient devenir comme des dieux, ils n'avaient qu'à manger du fruit de l'arbre. Mais ils mentaient, car alors, comme aujourd'hui, Seul le fidèle, accomplissant les préceptes divins, peut s'élever jusqu'à Dieu. Dans le ciel, nous serons réellement comme des dieux, non pas que nous le devenions en nature, mais bien par la vision béatifique. Nous verrons Dieu comme il se voit lui-même, et notre état sera celui de créature placée immédiatement au-dessous de la divinité. L'Église tient à nous rappeler cette pensée, et elle le fait dans cette oraison en nous parlant de l'incarnation du Verbe qui est le principe de la vraie grandeur de l'homme. L'eau et le vin ayant été versés dans le calice, le prêtre retourne au milieu de l'autel et offre le calice. La prière que le prêtre récite à ce moment manifeste bien que l'offrande qui est faite à ce moment est une préparation qui fait partie intégrante du sacrifice. Elle nous rappelle aussi le besoin que nous avons de nous offrir également personnellement, d'unir nos sacrifices à celui qui est déjà commencé sur l'autel. Ainsi, comme le dit l'auteur de l'Imitation, chaque fois que le prêtre, montant à l'autel, offre et renouvelle, selon l'institution divine, cet ineffable sacrifice, chaque fois que le fidèle participe à la victime immolée, et le fidèle et le prêtre doivent s'offrir comme Jésus-Christ s'est offert lui-même. Leur sacrifice, uni au sien, doit être comme le sien, sans réserve. Car nous aussi, nous sommes attachés à la croix, et avec Jésus-Christ, et en Jésus-Christ, nous souffrons pour nous, pour nos frères, pour les vivants, pour les morts, pour toute la grande famille humaine. Ce qui fait dire à l'apôtre saint Paul ces étonnantes paroles: je me réjouis de mes souffrances à cause de vous, et ce qui manque à la passion de Jésus-Christ, je l'accomplis en ma chair pour son corps qui est l'Église. Non sans doute que la passion du Sauveur ne fut plus que surabondante pour ôter le péché du monde et satisfaire à la justice de Dieu, mais parce que chacun de nous doit la reproduire en soi, et parce que, étant les membres d'un seul corps qui est le corps du Christ, tout ce que nous souffrons, il le souffre avec nous, de sorte que nos souffrances deviennent comme une partie de sa propre passion.